C'est des gens qui ont envie de faire survivre des gens qui leur sont chers. T'sais, j'ai une dame à un moment donné qui m'a dit je pourrais te payer pour que tu mettes ma grand-mère dans tes comptes. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de contes, ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de contes. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez « Il était une fois dans l'Est ». Un des contes qui est dans mon répertoire long, je l'ai appelé « Les deux bouteilles » et je le porte depuis 2013. Et en fait, ça, c'est un de mes contes qui a peut-être le plus été fait de toutes pièces par moi, donc où j'ai le plus créé de choses. Mais en fait, c'est que le canevas de base, je l'ai pris dans mon entourage. C'est une histoire qui parle, en gros, d'un personnage qui... qu'on a dans un de nos villages ici, c'est un personnage, une vraie personne, mais qui a appris qu'il allait mourir et à partir de ce moment-là, il s'est mis à vraiment vivre. Je vous jure qu'à partir du moment où tu as ta date de péremption qui t'est donnée, tu te mets à mettre de l'essentiel dans ton assiette. Et il a été très présent, ce gars-là, dans B ici, et je pense qu'il nous a tous donné envie de mieux vivre, en fait. Son exemple nous donnait envie de mordre autant d'envie puis de mettre de côté ce qui était superficiel. Et moi, ça m'inspirait. Et en plus, ce gars-là, il y avait une période un peu plus difficile et il s'est mis à venir tout le temps au compte. Et ça le faisait décrocher. Chaque soir, je le voyais. Et c'était son petit break de ce qu'il était en train de vivre. Alors, on s'est beaucoup rapproché à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie d'y faire un cadeau. Je voyais qu'il posait plein de gestes pour l'avenir, pour un avenir où il serait plus là par rapport à ses enfants. Et je me suis dit... qu'en racontant une histoire où il saurait très bien que ça parle de lui, il saurait qu'il y aurait une trace de lui pour ses enfants plus tard. On m'a dit qu'au Mexique, les gens disent qu'on meurt deux fois. On meurt une première fois quand notre corps nous lâche, puis une deuxième fois quand on arrête de parler de nous, quand notre mémoire disparaît. Et j'ai eu envie d'y dire par ce conte-là, regarde, tant que moi, je serai là, je te jure, tu auras une extension, promis, je ferai mon possible. Et puis peut-être bien même que ce conte-là me survivra et puis que tu nous survivras de cette manière-là. Alors, c'est une des parties où est-ce que j'essaie de raconter des histoires qui m'ont été contées. J'essaie de conter des choses que c'est pas de toute pièce moi qui l'ai créé. Mais clairement, quand je compte cette histoire-là, en fait, je vais juste raconter quelque chose de réel qui n'est pas le fruit de mon imagination du tout. Et puis son récit, c'est le récit de milliers de personnes qui se mettent à... Je veux dire, en partant, on sait qu'on a une date de fin. Il y en a juste qui arrivent à être plus conscients de ça. Et à partir du moment où ils arrivent à être je sais pas si c'est en paix ou peut-être à approcher ça d'une manière plus constructive, ils nous donnent toute une leçon de se tourner vers l'essentiel. Alors, dans cette histoire-là, c'est beaucoup ça que ça raconte. Et c'est de même que j'ai fonctionné pour bâtir cette histoire-là. Et j'ai vu... en 12 ans, j'ai vu des gens venir vers moi et puis me parler de leurs ancêtres en me disant « Tiens, je pourrais venir te parler de mon grand-père et il me semble que ça serait un bon personnage pour un de tes contes. » Alors, je me suis mis à voir cette démarche-là qui n'est pas du tout désintéressée. C'est des gens qui ont envie de faire survivre des gens qui leur sont chers. Mais tout d'un coup, les gens se sont mis à... T'sais, j'ai une dame à un moment donné qui m'a dit « Je pourrais te payer pour que tu mettes ma grand-mère dans tes contes. » Et je me suis pris la tête à deux mains en me disant « Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me mets à être commandité pour... » Et puis, on le fait au Québec. On a accepté que la culture, c'était quelque chose qui allait être financé par l'État de la même manière que la santé puis que l'éducation, qu'on voulait pas que la culture, ça ait quelque chose qui ait à se marchander nécessairement, donc on le finance. Mais la manière qu'on le fait, c'est par projet. Alors, tout d'un coup, le gouvernement, les politiciens en place se mettent à dire ce qui est important puis... à décider ce qui sera nos créations de l'année. Ah, tout d'un coup, on voudrait des contes qui vont parler de cette chose-là. On met 2 millions sur la table, puis promis, dans l'année qui va suivre, il va y avoir des centaines de contes qui vont parler exactement de ce propos-là. Si on veut avoir des contes qui vont se mettre à raconter à quel point tel parti politique était beau, le gouvernement a les moyens de gérer les artistes pour que ça arrive. Ils ont juste à mettre des enveloppes sur la table et puis c'est sûr qu'on a faim et puis on va se mettre à créer des... Donc, on a ce pouvoir-là. Est-ce que c'est bien? J'ai des doutes, mais toujours est-il que c'est le même qu'on fonctionne. Fait qu'en quoi qu'une femme qui viendrait me dire « Hey, si tu veux, je te donne quelque chose et puis tu parles de ma grand-mère. » Mais moi, j'étais pas à l'aise parce que qu'est-ce qu'il me dit que l'histoire de sa grand-mère, elle va vraiment me parler? C'est même pas un jugement de valeur, c'est juste est-ce que c'est quelque chose qui va me faire vibrer, ce récit-là? Est-ce qu'il va vraiment me toucher? Est-ce que je vais me rattacher à ce récit-là et avoir envie de l'intégrer? Il y a des chances que oui, mais il y a des chances que non. Et je me souviens, elle était venue, cette femme-là avait la fille de la grand-mère, elle avait une espèce de petite fermette, donc, puis bien sûr, j'ai pas accepté d'argent, mais ce que je lui ai dit, c'est, regarde, si tu veux, viens, parle-moi de ta grand-mère. Moi, je vais t'écouter me parler de ta grand-mère pendant une heure, si tu veux, et je vais recevoir ça. Ça va s'imbiber en moi, ça va laisser une trace. Chacune de nos rencontres laisse une trace. Et peut-être bien que cette trace-là, eh bien, va se traduire dans un de mes contes. Peut-être bien que ça va faire bifurquer la route d'un des personnages féminins d'une de mes histoires en entier même. Je peux pas te le garantir, mais ce que je peux te dire, c'est que je vais prendre le temps de t'écouter. Et c'est de même que j'ai fonctionné. Donc, elle est venue chez nous et la fille, elle avait une petite fermette. Donc, elle est venue avec une caisse remplie de petits produits de sa ferme. Il y avait des œufs, il y avait de la farine, il y avait des légumes. Elle a déposé ça sur la table, mais finalement, elle a eu un appel urgent et elle est repartie. Et j'y dois encore une heure d'écoute. Ça fait 8 ans. Madame, si tu m'entends, je te dois encore une heure à t'écouter me parler de ta grand-mère. Et en fait, ce sera peut-être ce que tu auras beau à faire pour ta grand-mère, de la raconter toi-même. Moi, c'est ce que je me dis. Moi, j'ai envie de ce petit moment-là. Il y a peut-être quelque chose de même thérapeutique dans le fait de raconter nos proches. Qu'est-ce qu'on fait dans un salon funéraire, souvent, ben, il y a le moment lourd et puis il y a le moment un peu lumineux où est-ce qu'on se met à raconter des histoires qui nous font sourire, où est-ce qu'on fait réapparaître ces personnes-là pour un bref moment, où est-ce qu'on apprend à les mettre en scène par nos mots et puis réparer leur absence. Et il y a quelque chose de rassurant dans le fait qu'on saura les faire réapparaître au besoin, où est-ce qu'on saura qu'on pourra raconter qu'est-ce que papy faisait. T'sais. On va garder un objet qui nous le rappelle, mais c'est pas l'objet qui est important, c'est... En fait, cet objet-là, c'est un aide-mémoire qui nous sert à faire revivre les mémoires. Mais quand est-ce qu'ils revivent vraiment ces mémoires-là? Eh bien, c'est quand on dit hey, c'est drôle, aujourd'hui, j'ai remis ce bonnet-là, puis ça m'a rappelé quand papy allait bûcher son bois. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Puis on redécolle sur papy. Et puis tout d'un coup, pendant une demi-heure, papy est encore parmi nous et il n'est pas mort. Donc, on m'a confié souvent ça, cette espèce de rôle-là de fait survivre le monde. Et je ne sais pas si c'est vraiment à moi de faire ça. On n'a pas à marchander ça. Je pense que c'est à nos familles de le faire. Et le récit de ta grand-mère, en fait, son vrai temple de la renommée, il est dans vos parties de famille. Il n'est pas sur une scène quelque part ailleurs au Québec. Non, il est dans son propre territoire. T'sais. Et ça, ben, c'est la famille. Sinon, dans ce conte-là, autre sujet, mais autre fun fact, il y a un moment où est-ce qu'il y a un personnage qui... transporte un gros sac de farine sur son épaule. Et je me souviens de ça. Il transporte ça et il doit laisser tomber ce sac de farine-là et ça va servir de contrepoids dans l'histoire sur une espèce de trampoline, une espèce de bascule où est-ce que le personnage va sauter sur la bascule et puis le sac de farine va swinguer dans les airs et puis mec, il retombe sur la planche. Il va faire décoller. C'est très cartoon. Et il y a un moment donné, en début de saison, j'ai raconté cette histoire-là et mon personnage... se rend dans la scène suivante et il a encore son sac de farine sur l'épaule et je me dis « Attends un peu, il n'est pas supposé avoir son sac de farine. Merde, il manque une péripétie. » Et je n'ai pas trouvé en quoi le contrepoids était nécessaire. Je me souvenais plus quand est-ce ça allait servir ça. Et j'étais mal pris parce que là, il y avait un objet de trop de « Mais pourquoi il a traîné un sac de farine? » Voyons donc, on se doutait qu'il y avait quelque chose. Il y a un insert qui est clair. Tu le promènes avec un sac de farine, mais là, s'il ne sert plus à rien, quoi, il le dépose, tu sais. Et j'ai pas trouvé d'autre issue que de partir à rire puis de dire au monde, ben je vais être franc avec vous, je sais pas pourquoi il y a un sac de farine sur l'épaule, vous. Il y avait une raison, mais il y en a plus, puis tiens, vous autres, vous avez un sac de farine gratis, vous repartirez avec un sac de farine à la maison, je sais pas pantoute à quoi il sert. Et ça faisait, tu sais, bon, c'est un conte que je compte depuis 2015, et là, ça, on était peut-être en 2019, là, me semble. Donc, ça faisait 4 ans qu'il y avait une raison à ce sac-là, mais depuis, il n'y a plus de raison. Et des fois, je me souviens qu'il faut que j'enlève le sac de farine, puis des fois, je ne m'en souviens pas, puis on arrive au même point, et puis il faut encore que je désamorce le sac de farine, puis je lui dise « Ah, merde, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, faut plus que je ramasse de sacs de farine dans cette histoire-là, tu sais. Parce que moi, j'avance dans le conte un peu comme sur un sentier dans une forêt, et puis hop, je vois une souche à droite, et puis tout d'un coup, ça me rappelle que, ah oui, c'est vrai, cette souche-là, il faut que j'y dépose cette chose-là. Elle est importante plus tard. Mais au début, quand je pige l'histoire, je me souviens pas. J'ai pas mon inventaire, puis je fais, ah oui, c'est vrai, il y aura cette souche-là plus tard. Non, c'est mec que je rentre dans cette croche du sentier-là. Ah, oui, qu'est-ce qu'on voit à partir de là? Ben, il y a la rivière sur la gauche, il y a la colline sur la droite, puis il y a une souche-là. Oui, c'est vrai, derrière la souche, il y a un personnage. Ah, OK, il faut pas que je l'oublie, tu sais. Mais c'est juste maintenant que je m'en rappelle. Eh bien, mon sac de farine, à plein de moments, c'est une espèce de glitch dans l'histoire. Il y a quelque chose qui est brisé. Ma mémoire n'est pas encore... ma mémoire, c'est pas complètement nettoyée de ce souvenir-là, mais seulement à demi. J'ai oublié à quoi il sert, mais des fois, je le ramasse encore comme un vieux réflexe. J'imagine comme du monde qui part à la job par erreur à leur retraite pendant une couple d'années, tu sais. Eh bien, moi, pendant une couple d'années, m'a traîné un sac de farine pour rien. Alors voilà mes petites anecdotes sur les deux bouteilles. Vous écoutiez Il était une fois dans l'Est, une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault, à la co-animation Marianne Boudreau, au montage Thomas Wadam Gagnon. Et à tout le reste, ben, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève, ainsi que la MRC Avignon et Boralex.